dans la société dans laquelle on a grandi, toi et moi, on s'attend à ce qu'un garçon soit hétérosexuel et à ce qu'une fille soit hétérosexuelle. Aujourd'hui, nos enfants voient plus de modèles, mais nous, toi et moi, nous ne voyons pas ces modèles-là à l'époque. Donc, j'avais comme de l'intérieur une déception de ne pas correspondre à l'image que je projetais de moi-même, puis que mes parents projetaient de moi, puis le deuil le plus difficile que j'ai eu à faire à l'époque, c'était le deuil de la parentalité. Parce que je me disais, je n'aurai pas d'enfant. Et ça, ça me rendait très triste et ça m'a pris du temps à faire ce deuil-là. Puis je m'étais dit, bon, ben je serai plus présent pour mes neveux et nièces. Je savais que mes sœurs auraient vraisemblablement des enfants. Et quand je suis devenu papa, je l'ai ressenti, tu vas dire il est spirituel aujourd'hui, je l'ai ressenti comme un miracle. Parce que moi, j'avais fait le deuil de la paternité et je suis devenu père quand même.
J'ai un frisson quand j'entends ça. Bienvenue au 6e épisode de La Quarantaine, une série balado de 40 conversations avec des personnes de 40 à 49 ans qui se racontent. On prend le temps de se parler pour mieux se comprendre. Mon nom est Brigitte Gem, j'adore faire parler des autres et ce projet, c'est ma manière de donner du sens à ce milieu de vie où on continue de grandir et où on peut encore se redéfinir. Mon invité d'aujourd'hui, Félix Turgeon, est avocat et directeur général d'une organisation gouvernementale du secteur de l'énergie. Mais avant tout, il est père de famille, ayant, avec son conjoint, adopté 2 enfants. On parle ensemble de sa jeunesse dans la région de Québec et du bonheur d'une maisonnée familiale où la porte était toujours ouverte pour parents et amis. On parle de son coming out comme homosexuel, une identité bien inconfortable au début qui lui faisait craindre qu'il ne réaliserait jamais son rêve d'être papa. Félix répond à mes questions sur son implication politique comme promoteur du vote à 16 ans à une époque où la réforme électorale semblait possible. Il me raconte aussi comment ses choix professionnels ont été influencés par ce qui compte le plus pour lui, être présent avec sa famille. Merci de partager ce moment avec nous. Félix Turgeon, quel bonheur d'être avec toi aujourd'hui.
Bonjour Brigitte, le bonheur est partagé.
C'est une joie de te retrouver. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu, qu'on ne s'est pas parlé. Et j'aimerais commencer en te demandant de me parler un peu de ta vie de tous les jours. La vie de Félix Turgeon, si j'en faisais un film, qu'est-ce qu'on verrait?
Si le film était... représenter la journée d'aujourd'hui, on verrait un homme de 44 ans, un père de famille, marié avec un autre homme depuis bientôt 9 ans. Mon conjoint et moi, on va célébrer ce soir notre anniversaire de mariage d'ailleurs, nous avons adopté 2 enfants. Nous avons un fils d'origine africaine qui a 13 ans, bientôt 14, et une fille d'origine haïtienne qui a 10 ans. Je suis avocat. Je travaille depuis quelques mois pour le service public comme directeur général de la Régie d'énergie du Québec, qui est un tribunal de régulation économique en matière d'énergie. Et je fais du sport à l'occasion et je m'intéresse aux questions d'affaires publiques et de transition énergétique. Voilà, en quelques mots.
Wow! OK, on a plein de choses dont on peut parler aujourd'hui. Ça va être super intéressant. J'aimerais qu'on commence en parlant de tes racines, de tes origines. Si tu penses à ce qui est venu avant toi, quand tu penses à d'où tu viens, qu'est-ce qui te vient à l'esprit?
Je viens d'une banlieue de la ville de Québec qui s'appelle Charlebourg. Je suis né en 1978 à Québec, de parents québécois francophones. Mon père, qui était enseignant, qui avait été formé chez les religieux, a quitté l'enseignement dans ma tendre enfance pour devenir menuisier ébéniste, donc travailler de ses mains pendant toute ma jeunesse. Ma mère, elle, qui est infirmière de formation, venait d'une grande famille, comme on en connaît beaucoup au Québec, 12 frères et sœurs. Et après son cours d'infirmière, est devenue enseignante et puis directrice d'école, donc directrice d'école au secondaire. Donc des parents qui s'intéressaient beaucoup au milieu de l'éducation, les deux ayant travaillé dans le domaine de l'éducation. J'ai 2 sœurs aussi. Et j'ai donc fait ma scolarité à Québec, au petit séminaire de Québec, au secondaire. Fait que c'est un petit peu ça, là, mon bagage, là d'où je viens.
Est-ce que ce bagage-là, comment tu penses en fait que ça t'a positionné pour la façon dont tu as grandi après? Qu'est-ce que ça a changé à ta vie d'être un petit gars de Québec, si on peut dire?
Je dirais que l'importance de la famille pour moi me provient de mon enfance, Brigitte. Chez nous, mes parents aimaient recevoir de la famille, des amis, aimaient que on invite nos amis, que mes sœurs invitent leurs amis, que moi j'invite mes amis à la maison. Donc, il y avait beaucoup d'animation chez nous, beaucoup d'activités, beaucoup de vie sociale, beaucoup de discussions. Et quand on me demande comment je m'identifie, je te dirais que la première chose qui me vient à l'esprit, c'est comme père de famille aujourd'hui. Fait que c'est très fort pour moi. C'est cet héritage-là que j'ai de mon enfance, puis que je cultive.
Ça, c'est probablement, si ton enfance a été un peu comme la mienne, mes parents viennent aussi tous les deux de familles nombreuses. C'est l'époque où on allait visiter les autres sans d'abord les appeler ou s'annoncer.
Oui. Et les gens arrivaient chez nous sans être annoncés aussi.
Exactement. Et je comprends pourquoi aujourd'hui c'est vraiment un tabou puis personne ne fait ça. Ou largement, ou quand quelqu'un le fait, c'est généralement pas nécessairement perçu comme une bonne surprise. Mais ça me manque un peu aussi, cette spontanéité-là.
Bien, tout à fait. Puis c'est drôle, moi, sais-tu comment je revis ça, Brigitte? Avec mes voisins. J'habite dans une banlieue de Montréal, une petite ville de banlieue qui s'appelle Saint-Lambert. Puis avec mes voisins, j'ai cette liberté-là qu'on se croise dans la rue, puis « Ah, tu goûtes de venir prendre une bière, venir prendre un verre de vin. » Et ça permet cette spontanéité-là, parce qu'il n'y a comme pas d'attente. Mais cette grande ouverture-là que nos parents ont connue, on dirait que nous, on l'a plus, cette liberté-là, aujourd'hui. Je te rejoins là-dessus, puis c'est vrai que ça manque. Bon, moi, je la vis un petit peu avec mes voisins, puis c'est agréable aussi. Que j'ai connu mes voisins grâce à mes enfants, hein, parce que c'est les enfants qui nous font développer un réseau. Fait que, voilà.
Autant par nécessité que par plaisir, souvent, parce que si on n'a pas de réseau avec des enfants, c'est vraiment difficile.
Oui, oui. Alors, moi, mon fils joue au hockey, il fait de l'équitation, ma fille joue au soccer, elle fait de la natation, fait que ça développe un réseau.
C'est sûr, qu'on le veuille ou non. Donc, aujourd'hui, Tu me parles de ta famille, de tes amis qui sont, de tes voisins en tout cas, qui sont des présences importantes pour toi. Qu'en est-il de ton milieu de travail? Comment tu vois l'importance de ton travail par rapport aux autres aspects de ton identité aujourd'hui?
Pour moi, c'est très important que mon travail me permette de mettre en pratique les valeurs qui sont les miennes. Je m'explique. Moi, j'ai toujours été intéressé par le service public. La question de l'écologie me préoccupe, de comment ce qu'on doit faire comme société pour réduire notre empreinte environnementale, pour améliorer la qualité de l'air, la qualité de la santé publique, finalement. Fait que j'ai choisi de quitter le secteur privé puis de me joindre à la Régie de l'énergie du Québec, justement pour contribuer à la transition énergétique. La Régie de l'énergie a un rôle unique à jouer au Québec, en ce sens où c'est cet organisme-là qui fixe les tarifs d'Hydro-Québec puis des distributeurs de gaz naturel, qui fixe les conditions de service, qui autorise les investissements, qui approuve les plans d'approvisionnement. Puis, le défi que je me suis donné en arrivant ici, c'est que la Régie prenne en compte, dans ses décisions, les impacts autres qu'économiques des dossiers qui lui sont soumis. C'est-à-dire ce que les économistes appellent, moi je ne suis pas un économiste, je suis un avocat, mais ils appellent ça des externalités. Donc d'internaliser dans le processus décisionnel les impacts environnementaux. Alors, ça me permet, c'est une longue réponse Brigitte, mais ça me permet de réconcilier mes valeurs avec mon travail. Et pour moi, ça c'est essentiel.
On va y revenir à ce choix-là que tu as fait de sauter vers le service public qui ne surprend pas du tout parce que c'est vrai que tu as toujours eu une inclinaison pour ce genre d'activité-là. Tu as mentionné au tout début que tu es un père de famille et que tu es marié à un autre homme. Parle-moi un peu de ton identité dans ce sens-là, de tes racines à cet égard, puis comment ça s'est joué dans ta vie, puis comment ça se joue aujourd'hui.
Écoute, ça a été un tremblement de terre pour moi, Brigitte, quand j'ai découvert à l'adolescence que j'étais attiré par les hommes plutôt que par les femmes. Je vais être bien franc avec toi, c'est pas ce que je souhaitais. Mais j'ai fini par comprendre que c'était pas mon choix non plus. que je devais simplement l'accepter, m'accepter et faire mon chemin avec ça, qui était mon orientation sexuelle. Ça a fait de moi, à mes yeux, à l'époque, là, je te parle dans les années 90, un marginal. Dans le sens où c'était une époque où quand on parlait d'homosexualité, le premier mot qui nous venait à l'esprit, c'était sida. Donc, c'est comme ça, moi, que j'ai... C'est à cette époque-là que j'ai conscientisé mon homosexualité. Puis, donc, avec beaucoup de crainte, avec crainte d'être jugé, crainte de tomber malade, crainte d'être discriminé. Alors, mais j'ai été très chanceux parce que malgré le fait que j'avais ces craintes-là, j'ai été bien accueilli quand j'ai fait mon coming out progressivement. J'ai commencé par en parler à mon meilleur ami, qui est hétérosexuel, puis qui est encore mon meilleur ami aujourd'hui. Puis, évidemment, il m'a demandé si j'étais en amour avec lui, fait que j'ai dit que non, je l'ai rassuré. Je suis parti à rire. Puis, il savait que je n'étais pas en amour avec lui. Et donc, on a pu passer à autre chose. Petit à petit, j'ai pu en parler à ma famille, ouvrir, puis même en parler dans mon milieu de travail. Et donc, mais ça fait partie de mon identité. Je me sens minoritaire dans la majorité. Je suis un homme blanc francophone au Québec, donc dans la majorité, mais cette situation-là, là, cette orientation sexuelle qui est la mienne, fait en sorte que je suis aussi une minorité. Et je te dirais, Brigitte, que ça l'a, je pense que ça a enrichi mon regard sur la diversité. La situation que vivent les communautés minoritaires. Ça m'a aussi amené à, quand mon conjoint et moi, on a développé le projet d'adopter des enfants, à me dire, ben moi, l'origine de mes enfants n'a pas d'importance à mes yeux. Ce que je veux, c'est être papa. Puis les services sociaux, quand on les approche, puis qu'ils nous demandent de leur parler de notre projet, il faut être très transparent dans ce qu'on leur dit, puis être très honnête et intègre. Puis moi, j'ai expliqué ça. J'ai dit, j'aimerais avoir un enfant sans égard à la couleur de sa peau, à ses origines. Ce que j'ai demandé, par contre, c'est d'avoir un enfant plus jeune. J'avais le goût d'avoir un enfant relativement jeune. Alors, on a été gâtés parce qu'on a eu notre fils, il avait l'âge de 14 mois quand on l'a eu. Et notre fille, elle avait 22 mois quand on l'a eu. Puis, comme on a eu un fils noir, quand on a fait notre deuxième projet d'adoption, là, on a dit, ayant un fils noir, nous aimerions maintenant avoir une fille noire. Là, on a été très précis et on a été exaucés. Donc, j'ai été très chanceux. La vie a été bonne pour moi, je dois te le dire. La vie a été bonne pour moi.
Parle-moi un petit peu plus, parce que quand tu dis de s'accepter, puis je vois bien le défi, je n'avais pas pensé à ça. D'ailleurs, là, dans les années 90, c'est vrai que au-delà de la discrimination, il y avait vraiment un aspect épeurant. C'était encore là, vraiment les années où le sida était hors de contrôle, puis on comprenait pas beaucoup. J'avais jamais visualisé ça, mais est-ce que t'as vécu ça plutôt comme des défis de l'intérieur, de ton identité à toi, psychologique, si on peut dire, et à quel point t'as vécu ça aussi comme des défis venant de l'extérieur, soit de la communauté en général ou...
J'ai vécu les deux, Brigitte. Alors, de l'intérieur, j'étais... Dans la société dans laquelle on a grandi, toi et moi, on s'attend à ce qu'un garçon soit hétérosexuel et à ce qu'une fille soit hétérosexuelle. Aujourd'hui, nos enfants voient plus de modèles, mais nous, toi et moi, nous ne voyons pas ces modèles-là à l'époque. Donc, j'avais comme de l'intérieur une déception de ne pas correspondre à l'image que je projetais de moi-même, puis que mes parents projetaient de moi, puis, bon, ma famille. Puis de l'extérieur, puis là, j'avais des craintes aussi par rapport aux réactions de l'extérieur. Puis, le deuil le plus difficile que j'ai eu à faire à l'époque, puis ça va peut-être te faire sourire, c'était le deuil de la parentalité. Parce que je me disais, je n'aurai pas d'enfant. Et ça, ça me rendait très triste et ça m'a pris du temps à faire ce deuil-là. Puis je m'étais dit, bon, ben je serai plus présent pour mes neveux et nièces. Je savais que mes sœurs auraient vraisemblablement des enfants. Et quand je suis devenu papa, je l'ai ressenti, tu vas dire, il est spirituel aujourd'hui, je l'ai ressenti comme un miracle. Parce que moi, j'avais fait le deuil de la paternité et je suis devenu père quand même.
Tu as ressuscité comme père après avoir fait ton deuil et ta petite mort d'être parent.
Oui, oui.
T'es sorti de ton tombeau, mais c'est magnifique.
Pour moi, dans mon histoire, ben c'est ça. Le sujet un peu de l'entrevue, c'est une question entre autres d'identité. Pour mon identité, c'était extraordinaire. Puis je trouvais ça intéressant de te partager ça aujourd'hui, de te témoigner de ça aujourd'hui.
Je trouve ça très beau. Merci, Félix, de partager ça. Ça me donne des frissons. Parlons un peu aussi de... Je veux pas être plate, là, mais t'es avocat.
Oui, c'est vrai.
C'est un choix professionnel peut-être autant qu'identitaire. Parle-moi un peu de ce choix-là que tu as fait puis de la place que ça a dans ta vie aujourd'hui.
OK.
Dans le passé et aujourd'hui, d'ailleurs.
OK. C'était assez clair, assez tôt pour moi, que la profession juridique était pour m'intéresser. Quand j'étais au secondaire et puis au cégep, j'avais une bonne idée que je me dirigerais vers le droit. Les autres domaines connexes de sciences sociales m'intéressaient aussi. Là, sciences politiques, communication. J'ai même pensé à un moment donné brièvement à la psychologie. Mais disons que le droit m'intéressait pour différentes raisons. D'abord, c'est un métier de lettres. Moi, j'aime la littérature, j'aime la lecture, les lettres. J'aime aussi le fait que c'est un métier qui peut mener à différents types de carrières au service public. Beaucoup d'hommes et de femmes politiques ont une formation juridique. C'est une formation, la formation juridique, qui est une bonne formation de généraliste, qui peut mener à toucher à différentes choses et à s'intéresser à différents sujets. Fait que quand on est quelqu'un de curieux, il y a là une belle matière pour beaucoup d'heures de plaisir. Fait que ce sont les raisons qui ont motivé mon choix. Comme avocat, j'ai toujours travaillé en entreprise. J'ai travaillé brièvement dans une agence de l'ONU comme stagiaire, mais j'ai toujours travaillé en entreprise. J'aime beaucoup le travail juridique en entreprise parce que j'aime les projets. J'aime participer à la réalisation d'un projet. Je suis vraiment un joueur d'équipe, puis j'ai eu beaucoup de plaisir pendant mes 20 ans de pratique de droit en entreprise à ce titre-là. Et ça m'a mené à ce nouveau rôle-là que j'occupe comme directeur général de la Régie d'énergie du Québec, où je gère une équipe de non-juristes. Ce sont des économistes, des ingénieurs, des comptables qui forment l'équipe des spécialistes qui analysent les dossiers qui sont soumis à la Régie. Mais, les réflexes juridiques sont quand même très utiles dans ce rôle-là, même si la fonction juridique est incarnée par d'autres collègues.
Wow! Est-ce que quand tu as choisi d'aller vers le droit, tu as laissé d'autres projets, d'autres identités peut-être de côté?
Bien, j'avais songé étudier en politique et ma mère m'a dit de ne pas faire ça et d'aller chercher une vraie bonne profession libérale. Donc... elle a presque fait le choix pour moi, je te dirais. Puis, elle m'avait dit, avec le droit, tu pourras faire de la politique si tu veux, mais si tu fais de la politique, tu ne pourras pas faire de droit, si tu étudies en sciences politiques. Je trouvais que c'était un bon argument. Donc, ça m'a convaincu. Oui, j'ai... tu t'intéresses au choix. La diplomatie est quelque chose qui m'aurait intéressé. Quand j'étais à Rome pour une agence de l'ONU, il aurait fallu faire des allers-retours entre Montréal et Rome pour décrocher un poste temporaire qui aurait pu mener éventuellement une permanence. J'étais en amour à l'époque avec mon ancien conjoint qui était à Montréal. Donc, c'était pas une option pour moi là, de suivre ce chemin-là. Et ça s'est donc pas présenté pour moi. Je suis rentré à Montréal, puis j'ai commencé à travailler à Montréal, plutôt que de poursuivre l'autre chemin. Alors, la diplomatie, c'est pas présenté pour ces raisons-là. Mais il y a eu autre chose. Choisir, c'est renoncer.
Oui. J'aimerais qu'on fasse un petit détour pour un moment sur quelque chose qui fait partie dans ma tête, à moi, de ton identité, de la manière dont je me rappelle de comment c'est connu, qui est la question du vote à 16 ans, qui était une question qui te passionnait beaucoup, je pense, à l'époque où on s'est connus.
Oui.
Peux-tu me parler un peu de cette période-là de ta vie? Qui était dans les fins des années 90. Donc, oui. Qu'est-ce que c'était la question du vote à 16 ans? Puis quelle importance ça a eu dans ta vie d'abord?
Ah, mon Dieu, belle question. Je ne pensais pas qu'on aborderait ça aujourd'hui, mais je trouve ça agréable que tu ramènes ça. En fait, c'est, à l'époque, c'était dans les années qui ont suivi le référendum de 1995, il y avait au gouvernement du Québec, au Parti québécois, toute une réflexion qui était pilotée entre autres par Jean-Pierre Charbonneau, qui était ministre, je pense, de la réforme des institutions démocratiques ou président de l'Assemblée nationale. Je ne me souviens pas exactement du rôle qu'il occupait, mais il y avait un intérêt pour brasser un peu les institutions démocratiques, les lois à cet égard-là. Alors, moi, c'est dans ce contexte-là où j'ai, avec quelques copains, produit un mémoire à la commission parlementaire à l'Assemblée nationale qui révisait les lois là, encadrant les élections au Québec, pour proposer l'idée que le droit de vote soit accordé dès l'âge de 16 ans aux jeunes du Québec. Puis c'était basé sur les réflexions suivantes. À 16 ans au Québec, un jeune ou une jeune peut quitter l'école en vertu de la loi, peut travailler à temps plein. S'il travaille à temps plein, cette personne-là paie des impôts sur son salaire. S'il devient consommateur, paie des taxes aussi. Et en vertu du bon vieux principe américain de « no taxation without representation », pourquoi ces jeunes-là n'auraient pas le droit de participer à la vie démocratique alors qu'ils contribuent aux finances publiques? L'idée, c'était aussi d'essayer d'envoyer un message à la jeunesse à l'effet que « occupe-toi de la démocratie ». On te donne le droit de vote, exerce-le et influence la société dans le sens de tes valeurs. Donc, il y avait une question de cohérence avec le principe de no taxation without representation. Il y avait une question de propagation de la démocratie. Il y avait une petite réflexion collective sur le cadre électoral au Québec. Fait que c'est dans cette foulée-là que j'ai contribué à cette réflexion-là. Ça n'a pas porté fruit.
Pas encore. Mon agenda secret, c'est que j'espère que ceux qui vont nous écouter vont se dire hey, « c'est une bonne idée, il faudrait qu'on s'y remette ».
Ben moi, je pense que ça vaudrait la peine d'être étudié à nouveau. Ça fait quand même 25 ans ce que je te raconte là. Puis je pense aussi que on a vu dernièrement les décisions de la Cour suprême des États-Unis. Quelle a été la réaction du président Biden? Moi, je pense qu'elle était juste. Elle était de dire aux Américaines et aux Américains, si vous voulez des changements, il faut voter. Les législateurs sont là pour adopter des lois et protéger les droits, notamment les droits des minorités, mais les droits des femmes, ici, dont il est question. Voter. Voter en grand nombre aux élections. Obama a réussi une certaine réforme. Ce n'était pas la réforme qu'il souhaitait, mais il a réussi une certaine réforme en assurance santé parce qu'il avait un mandat, puis il avait, à l'époque, les démocrates avaient le contrôle des deux chambres. Alors, oui, Brigitte, c'est peut-être le temps de relancer la discussion, qui sait. En tout cas, Moi, je crois à nos institutions démocratiques et j'espère que les jeunes votent aux élections pour faire entendre leur voix sur les enjeux sociaux qui sont majeurs. Puis, ce qu'on prenait pour acquis, peut-être que là, on commence à se rendre compte qu'on ne peut pas le prendre pour acquis. Donc, il faut rester vigilant.
On va y revenir dans un moment. J'ai écrit une petite note pour être sûr de ne pas oublier, parce que la question des acquis aux États-Unis, présentement, évidemment, on parle du droit à l'avortement, mais plusieurs ont commencé à se questionner sur le droit au mariage aussi. Donc, on va y revenir dans une seconde. Mais avant, la question qu'il me brûle de te poser, avec ce genre d'activité-là que tu as eue à l'adolescence, je suis sûre qu'on a voulu t'approcher ou qu'on t'a approché pour participer peut-être plus activement à la vie politique une fois que tu as eu 18 ans, bien sûr. Est-ce que c'est quelque chose à quoi tu as pensé?
Oui, on m'a approché pour travailler en politique. Oui, j'y ai réfléchi. Et puis, je l'ai toujours écarté. Puis, sans grande surprise pour toi, puisque c'est le thème de l'entrevue aujourd'hui, j'ai toujours mis ma famille de l'avant. C'est important pour moi d'être là en soirée, de souper avec mon chum, avec mes enfants, de faire les devoirs à mes enfants, d'aller au soccer, d'aller au hockey, d'organiser, mon chum organise les tournois, mais de participer aux tournois puis aux événements, parce que tu clignes les yeux puis tes enfants sont grands. Donc, la fenêtre, il faut pas la manquer. Puis cette semaine, ils sont dans un camp de vacances, ils sont pas là de la semaine. Puis j'ai hâte d'aller les chercher vendredi. Donc, faire de la politique, là, je sais quels sont les sacrifices qui sont demandés aux gens politiques. J'avais un de mes copains qui est député, qui est venu souper à la maison lundi soir, puis je vois bien ce que c'est. Puis, je suis pas prêt à faire ces sacrifices-là, mais je suis content et je suis reconnaissant envers celles et ceux qui le font. Mais je dis pas non à tout jamais, mais pas tant que mes enfants vont être ma priorité, ça c'est certain.
C'est une belle façon d'y penser. Je pense que c'est clair que je pense que les policiers ne sont pas obligés d'être des martyrs. Parfois, ils le sont. Ils ne sont pas obligés. Mais c'est sûr que ça devient une présence extrême dans la vie, incluant dans la vie privée, même ceux qui réussissent à avoir une famille en même temps qu'une profession politique. Ils vont être envahis constamment par les demandes extérieures, sans compter les paparazzis. En plus.
Exact. La pression est très forte, l'horaire est très chargé et les attentes sont grandes.
Je suis contente que tu aies mis les priorités à la bonne place, à mon avis, mais bon. Écoute, on parle de choix depuis tout à l'heure, donc parlons-en de plein fouet et je te demanderai juste pour mettre la table. C'est quoi, à ton avis, les choix les plus importants que tu as faits dans ta vie, dans les 44 premières années de ta vie, les choix que tu as faits, les choix que tu n'as pas faits, évidemment, il y en a qui sont faits pour nous, des fois, mais il y a des choix qu'on décide de laisser passer, puis des fois, on pèse sur snooze, puis des fois, il est trop tard après. C'est quoi, d'après toi, les grands choix qui définissent ta vie d'aujourd'hui?
J'ai choisi de nourrir mes relations avec les membres de ma famille et avec mes amis proches que j'ai gardés depuis, mon meilleur ami, c'est depuis le primaire. Donc, et je sais que ça, ce sont des choses qui sont choisies, qu'on ne peut pas tenir pour acquises non plus. Alors moi, j'ai choisi ça et ça m'apporte beaucoup de bonheur. J'ai choisi des postes qui m'ont permis d'avoir une conciliation travail personnel équilibrée. Ça m'a défini. À l'université, j'étais un peu dispersé, j'étais impliqué dans l'association étudiante, j'étais impliqué dans le parlement étudiant, j'étais impliqué dans toutes sortes de causes et je pense que mes notes s'en sont ressenties. J'ai J'aurais voulu être sur la liste du doyen, puis je n'ai pas fait la liste du doyen. Et ça a eu un impact sur mon début de carrière. Donc, tu parlais de choix. Fait que je suis très content de tous les engagements que j'ai eus, parce que ça m'apportait beaucoup au plan humain. Mais ça a eu un impact sur ma carrière. Alors, ça, c'est un choix. Je te dirais que au cours des dernières années, si je fast forward, j'avais une belle carrière en entreprise. J'étais directeur des affaires juridiques dans une grande entreprise québécoise. Puis, on me disait toujours, c'est toi le prochain, c'est toi la relève, c'est toi le prochain vice-président. Puis moi, j'ai entrepris de mon côté une réflexion sur mes choix. Est-ce que je suis, entre guillemets, condamné à suivre ce chemin-là ou est-ce que je peux faire autre chose? Puis je suis allé chercher le soutien d'une coach, professionnelle de carrière, qui m'a vraiment bien coaché en ce sens où elle m'a aidé à mieux me connaître, mieux identifier mes valeurs, ce que je recherche, ouvrir mon champ. Puis c'est ce qui m'a amené dans le poste que j'occupe aujourd'hui, parce que quand l'opportunité s'est présentée, j'ai compris que c'était la bonne opportunité pour moi, même si c'était pas un poste d'avocat. Donc, c'est un choix ça aussi, de dire je quitte le milieu des affaires, je quitte le milieu d'entreprise pour autre chose, puis j'ai laissé potentiellement une vice-présidence, mais j'ai beaucoup de plaisir dans ce que je fais, puis ça a beaucoup d'impact. Je pense en tout cas là, que ça aura beaucoup d'impact sur les développements du cadre de la transition énergétique au Québec. Puis ça a beaucoup de valeur à mes yeux, puis ça m'apporte beaucoup de joie.
C'est le fun. Moi, je trouve ça magnifique, cette capacité-là que certains d'entre nous ont, puis plusieurs que j'ai interviewés jusqu'à date dans la quarantaine, cette capacité-là de se remettre en cause, puis de prendre un autre chemin, qui est quand même pas un chemin drastiquement différent de celui sur lequel tu étais déjà positionné, mais c'est quand même un certain revirement. As-tu de l'incertitude ou peut-être des gens qui ont essayé de te convaincre de rester sur la voie royale, peut-être, j'exagère un
oui.
peu, sur laquelle tu étais
oui.
avant?
Oui, oui, beaucoup, beaucoup de... Alors, il y avait deux niveaux. Les gens qui, comme toi, me connaissaient de longue date, ont tout de suite pigé et ont tout de suite compris, c'est évident. Les gens qui me connaissaient plus en superficie, je dirais, dans mon rôle de directeur des affaires juridiques, me voyant bien positionné pour la vice-présidence, là, comprenaient pas. Eux comprenaient pas la décision. Fait que j'ai dû leur expliquer. Puis je pense qu'ils ont compris par la suite. Mais si un an, tu m'avais dit que je me retrouverais en janvier 2022 directeur général de la Régie de l'énergie, je ne t'aurais pas cru. Fait que c'était vraiment une grande surprise pour moi. Ça s'est fait très, très vite comme processus. Puis quand je suis arrivé en entrevue pour la petite histoire, j'ai expliqué au comité de sélection ce que la Régie de l'énergie fait bien et ce qu'elle devrait faire mieux. Puis, ce qui devrait être développé pour assurer la transition énergétique du Québec. Puis, ils m'ont donné le poste en me disant, bon, même à toi de livrer ce que tu nous as dit qu'ils doivent faire en entrevue.
J'espère qu'ils avaient pris des notes.
Oui, je te le confirme. Ça s'est retrouvé dans mes attentes. Puis je suis en train de le faire, Brigitte. J'ai hâte de pouvoir t'en parler un petit peu plus concrètement, mais il y a des choses qui s'en viennent bientôt.
Parle-moi de... Ce qui m'intéresse particulièrement ici, là, c'est comment une personne, tu sais, puis souvent on pense à c'est juste moi, une petite personne, tu sais, puis évidemment, tu es dans une position relativement privilégiée d'avoir ces leviers-là d'action, mais il y en a beaucoup des gens dans des positions privilégiées qui sont quand même pas capables, qui n'ont pas la capacité de procéder aux transformations parfois radicales, qui peuvent penser comme étant nécessaires. Même le président des États-Unis, juste parce qu'il est président des États-Unis, n'a pas la capacité de faire n'importe quoi. On le sait, c'est évident par les temps qui courent. Mais donc, comment tu vois ta propre capacité, mais aussi tes limites, à amener ces changements-là que tu vois comme étant nécessaires?
OK. Bien, il y a deux niveaux. Je vais commencer par la fonction, puis après ça, je vais parler leadership. Au niveau de la fonction, moi, je travaille dans un tribunal de régulation économique. Je ne suis pas le policymaker ici. Le policymaker, il est à Québec ou il est à Ottawa. À l'occasion, je peux avoir des discussions avec le policymaker. Je peux peut-être nourrir sa réflexion occasionnellement, mais c'est les décisions dans notre système démocratique, c'est là qu'elles se prennent. Donc, mon rôle est somme toute limité. Une fois que j'ai dit ce que j'avais à dire, je prends le cadre qu'on me donne, puis j'essaie de faire le maximum dans le cadre qu'on me donne. Puis ça, je suis quelqu'un d'assez créatif. Donc, ça, c'est pour le premier bout. Pour le bout leadership, avec l'expérience que j'ai acquise, je pense que ça part, Brigitte, de donner du sens. OK? Expliquer à l'équipe pourquoi. Qu'est-ce qu'on cherche à atteindre? Puis, on est tous, on travaille souvent, comme on dit, le nez sur la meule. Hein? Fait qu'on voit l'arbre, puis on voit pas la forêt. Puis, je trouve que les leaders, moi, je suis un des leaders dans mon organisation ici. Nous, les leaders, nous avons comme responsabilité de donner du sens. Puis de décoller les gens de l'arbre pour voir la forêt. Quand on fait ça, puis qu'on donne du sens, puis qu'on explique pourquoi, là, le terreau est fertile, puis là, les idées peuvent jaillir, puis là, on peut avancer. Fait que moi, je pense que ça part de là. Évidemment, quand tu as des habiletés en communication, c'est bien utile. Parce que donner du sens, ça se passe en parlant et en écoutant. Puis là, je ne suis pas capable de dire le ratio idéal, mais il y en a qui disent qu'on a deux oreilles puis une bouche. C'est parce qu'il faut qu'on écoute deux fois plus que l'on parle. Il y a peut-être du vrai là-dedans. Fait que je pense qu'il faut écouter beaucoup, mais il faut exprimer où on s'en va. Puis donner la place aux gens. Vas-y.
Cristalliser cette vision-là d'un meilleur avenir, même, encore, j'ose dire.
Oui, puis ce qui est le fun, c'est que moi, quand je suis arrivé ici, j'ai bien senti que l'équipe est consciente des enjeux environnementaux, a le goût d'y contribuer. Tu sais, c'était pas difficile, là, c'était pas une vente difficile pour moi, là, d'avoir à s'entendre sur les valeurs. Là où j'avais un défi un petit peu plus grand, c'était d'amener l'équipe à réfléchir, OK, maintenant, nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire différemment? Qu'est-ce qu'on peut faire de nouveau? De plus? Mais en donnant cette espèce d'espace-là de dire, voici où on s'en va, maintenant on peut se parler des moyens, en écoutant, ça crée comme une roue. Puis là, la roue se met à tourner, puis à un moment donné, la roue tourne plus vite, de plus en plus vite, puis ça marche. C'est mon expérience, ça fonctionne.
Il y a du momentum.
Oui, vraiment.
Parle-moi pour un moment, puis je ne veux pas te mettre sur la sellette, mais pourquoi c'est important? Puis il y a des raisons évidentes, là, mais pourquoi c'est important tout ça? Tu sais, je veux dire, on est dans la quarantaine, on a la capacité peut-être enfin économiquement, tu sais, d'être un peu plus confortable. On pourrait fort bien pas se préoccuper particulièrement des questions environnementales. C'est pas facile de pousser pour des changements, même le meilleur des leaders va rencontrer de la résistance quand on parle de grands changements d'orientation. Pourquoi on se donne ce trouble-là? Qu'est-ce qui fait que pour toi, tu te lèves le matin et tu dis « je vais aller travailler là-dessus »?
C'est peut-être un côté, mon Dieu, le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est romantique, mais je trouve que la nature est belle. Je trouve qu'elle est précieuse et qu'elle est fragile. Donc, ça part d'un mouvement qui a une certaine forme d'altruisme. J'ai le goût de prendre soin d'eux. Mais en même temps, je suis très conscient que c'est aussi une question de survie de l'espèce, là. Mais j'ai tendance à sentir qu'on a une espèce de responsabilité. Puis là, c'est l'avocat qui va parler, mais fiduciaire. Il faut faire attention à la nature. Il faut en prendre soin. On veut la léguer aux générations futures. Puis, en même temps, je trouve ça très satisfaisant de sentir qu'on a un impact positif. Fait que si j'ai planté un arbre sur mon terrain, si on a fait un bel ménagement de fleurs, si on a bien entretenu, si je vois des petites abeilles qui viennent butiner dans le jardin, ça me fait plaisir, puis je le montre à mes enfants. Donc, ça m'apporte, je sais pas, c'est peut-être un peu vague comme réponse, mais ça m'apporte du bonheur.
Il y a quelque chose de précieux, comme tu dis, qui mérite d'être préservé, soutenu, on peut dire ça?
Oui, on peut dire ça. Puis, j'essaie de le passer à mes enfants, parce que faut pas penser que les enfants viennent au monde avec la conscience écologique. Ça s'apprend. C'est comme le reste. C'est comme les matières scolaires, c'est comme les bonnes manières. La conscience écologique s'apprend. Mais j'ai du fun à leur passer ça. Puis j'ai la chance d'avoir... Mon garçon est passionné par les animaux, tout ce qui a trait aux animaux. Donc lui, ça résonne fort en lui. Puis ma fille est moins passionnée par les animaux, mais elle a une belle curiosité générale. Donc, tranquillement, pas vite, j'essaie de les sensibiliser aux questions environnementales, à réduire la longueur des douches, puis à éteindre les lumières quand tu quittes une pièce.
Je t'écoutais décrire nos responsabilités fiduciaires à l'égard de l'environnement. Puis, je voudrais t'en empêcher, mais je pourrais pas. T'es un bon père de famille. C'est un concept légal, mais c'est vrai. Je pense que ça fait partie beaucoup de... Puis là, ça revient, je pense que la question des enfants revient beaucoup dans ta vie. Alors, parlons-en pleinement et ouvertement de cette décision-là d'avoir des enfants. C'est un des choix que tu as fait, un choix que tu pensais qui ne serait pas accessible. Puis en fait, probablement il y a combien d'années? Il y a 20 ans, ça n'aurait certainement pas été possible. Est-ce que ça l'était?
Non, tu as parfaitement raison, ça ne l'était pas.
Donc, parle-moi un peu de ce sans me donner un cours de loi familiale 101 ici, mais parle-moi de ce qui a fait en sorte que ça devienne possible dans ta vie de devenir père, ce qui était un rêve que tu avais. Hein?
Oui, tout à fait. Bien, au tournant des années 2000, les lois... je vais parler des lois au Québec, je suis moins familier avec les législations des autres juridictions, mais les lois au Québec ont changé. Et... il y a eu l'union civile, il y a eu le mariage gay qui a été autorisé par la Cour suprême, si mon souvenir est bon, puis après ça qui est passé dans les lois fédérales. Et peu de temps après, l'adoption d'un enfant par deux parents de même sexe est devenue possible. Bon. Nous, on avait des amis, on avait un couple d'amis qui avaient entrepris un processus, puis qui nous parlaient de leur processus, et... à un moment donné, on a décidé de se marier, mon conjoint et moi, je l'ai demandé en mariage. Il a dit oui. On s'est mariés à l'été 2009. Oui, c'est le fun. Et à peu près au même moment où je l'ai demandé en mariage, quelques mois avant, en fait, on avait entrepris la procédure pour pouvoir devenir une famille d'accueil en vertu du programme des services sociaux de la Direction de la protection de la jeunesse du Québec. Et donc, la façon dont ça fonctionne, c'est que il y a une entrevue qui a lieu, des questionnaires, des références sont prises, une évaluation psychosociale. En tout cas, c'est un processus en plusieurs étapes, des séances d'information obligatoires, etc. Puis, à l'issue de toutes ces étapes-là, la DPJ, les travailleurs sociaux, rendent une évaluation. Puis, disent « Oui, tu peux devenir une famille d'accueil. » ton couple ou non. Alors nous, c'était oui. Et ils nous avaient dit à l'époque, je me souviens de ça toute ma vie, ils nous avaient dit, nous, on recherche les meilleures familles pour nos enfants. Fait qu'on regarde quels sont les besoins des enfants, puis en fonction des besoins, on regarde dans notre banque de famille, puis laquelle est la meilleure pour répondre aux besoins de l'enfant. J'avais bien aimé ça. Puis après ça, ils avaient rajouté, généralement, on privilégie les familles hétérosexuelles sinon, on va aller du côté des familles homosexuelles, puis sinon, on va aller du côté des personnes seules. Fait que j'avais trouvé ça assez blunt.
C'est assez candide, ouais.
Ouais. Mais c'était ça. C'était comme ça que ça fonctionnait. Alors, bon. La chance qu'on a eue, c'est que en décembre 2009, on a reçu un coup de fil, puis ils nous ont dit, on a un petit garçon de 14 mois, puis on pense que vous êtes la bonne famille pour lui. On aimerait s'organiser une rencontre. Il était en famille d'accueil depuis 2 mois environ, quand on a eu la première rencontre avec notre fils. Puis, on a eu un coup de cœur, puis je dirais réciproque, pour lui, lui pour nous. Puis, 2 semaines plus tard, là, il était rendu chez nous. Et puis, j'ai jamais pleuré comme ça de ma vie, je peux te le dire. Pleurer à plus voir clair tellement je pleurais. Mais, parce que c'était mon miracle qui se réalisait, mon miracle dont je te parlais tantôt. Fait que ça, c'était en décembre 2009. On a eu notre garçon qui a 13 ans.
Comme famille d'accueil.
Au départ, famille d'accueil.
Oui, oui.
Puis, quelques mois plus tard, famille d'accueil s'est transformée en famille d'accueil jusqu'à sa majorité, donc jusqu'à l'âge de 18 ans. Puis, quelques années plus tard, adoption. Donc, les critères ne sont pas les mêmes pour être famille d'accueil versus pour devenir famille adoptive. Les critères sont plus élevés pour devenir famille adoptive. En décembre 2013, on a eu notre petite fille qui avait 22 mois. Quelques mois plus tard, on a eu le placement en majorité, donc on est sa famille d'accueil jusqu'à ses 18 ans. Puis, on n'a pas encore pu l'adopter parce que le critère qui permet l'adoption n'est pas rencontré du fait que la mère biologique de notre fille est encore présente dans sa vie. Elles ont 2 contacts par mois. Et je pense que c'est très positif pour ma fille de connaître sa mère et de savoir qui elle est, d'avoir une relation avec elle, de la voir comme ça 2 fois par mois. C'est quelqu'un qui est présent dans sa vie, puis je vois ça très positivement. Donc, elle n'est pas adoptée. J'espère quand même parvenir à l'adoption un jour. Mais si ça n'arrive pas, c'est pas grave. C'est ce que je souhaite, mais c'est ma fille quand même, puis on est ses papas quand même.
C'est un gros défi. Avoir des enfants en général, évidemment, c'est une transition souvent difficile pour la plupart des gens. C'est un gros défi d'ajouter quelqu'un dans ta vie qui dépend de toi à ce niveau-là, d'une telle intensité, surtout encore à plusieurs égards des tout petits enfants, des bébés, tu sais. Mais j'ai beaucoup d'admiration pour les familles qui décident d'être des familles d'accueil, qui en plus vivent avec les défis supplémentaires d'être une famille d'accueil. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a passé par la tête avant d'embarquer dans le processus?
Les travailleurs sociaux étaient très, très clairs sur le fait que les enfants qui sont confiés aux services sociaux arrivent souvent avec un bagage. Donc, on le savait dans quoi on s'embarquait. On a été très chanceux parce que nos enfants n'ont pas de problème de santé, ni l'un ni l'autre. On a eu des inquiétudes pour les deux au départ, et pour notre fils et pour notre fille. Puis dans les deux cas, les inquiétudes se sont dissipées. Oui, on était conscients de ça, Brigitte, tout à fait. Puis c'est important de prendre ces décisions-là en toute connaissance de cause. Les travailleurs sociaux nous disaient, on veut des parents des 8, des 9 puis des 10 sur 10 pour nos enfants.
Oui.
Fait que c'était valorisant pour l'ego quand on était sélectionnés.
Je me demande, tu sais, si tu étais une femme et une mère, puis je me demande comment ça se joue dans la situation où les deux parents sont deux pères, tu sais. Mais si tu étais une femme, on t'aurait sûrement posé la question, quelque chose dans le genre de « mais vous n'aviez pas peur que ça fasse dérailler votre carrière? » Parce que tu avais déjà une carrière assez intéressante, tu sais, comme avocat. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a traversé l'esprit?
Ben, je te dirais que ça a fait dérailler ma carrière, entre guillemets. Dérailler peut-être fort, mais...
Pour le mieux, peut-être.
Oui, dans le sens où, pendant quelques années, je travaillais pour une grande firme de génie conseil, et puis, quand on a eu notre fils, quand on était dans le processus, on ne l'avait pas encore, mais on était dans le processus et ça s'en venait, j'avais annoncé à mon patron que je voulais prendre un congé de paternité. Puis il m'avait répondu, ça ne se fait pas ici.
Oh,
de prendre un congé de paternité. Alors, j'ai dit bon, d'accord, et j'ai quitté l'entreprise parce que c'était inconcevable pour moi d'être privé de ce moment-là alors que j'accueillais mon enfant. Donc, oui, ça a fait dérailler ma carrière, entre guillemets. J'avais une belle carrière dans cette entreprise-là. Je faisais beaucoup de droit international. J'avais de très, très beaux projets partout dans le monde. J'ai voyagé en Afrique du Nord, au Moyen-Orient, partout en Europe. Mais j'étais pas prêt à faire les sacrifices que ça prenait. Dans cette même entreprise-là, j'avais été récompensé comme étant un avocat très performant, puis invité à une soirée de gala. Mais on m'avait dit, c'est mieux que tu viennes seul, plutôt que d'y aller accompagné. Et je te parle, Brigitte, non, je te parle dans les années 2007-2008.
Accompagné de ton conjoint.
De mon conjoint, oui.
Si ça avait été personne se serait intrigué de ça.
Exactement. Puis on m'avait dit que ce serait pas bon pour ma progression. Fait que là, j'ai dit, écoutez, je ferais quand même pas semblant d'être célibataire. J'ai dit, votre beau prix, là, vous pouvez le garder pour vous. Je vais pas à la soirée en question.
Ah, oh, que c'est dommage, dommage.
Ouais.
Pas pour toi, mais pour eux, tu sais, pour... Puis on parle du 21e siècle quand même, là.
Oui, tout à fait. Fait que, bref, je vais pas m'attarder là-dessus, mais je pense que je suis allé trouver mon bonheur ailleurs, tout simplement.
J'aime y penser comme ça aussi. Je te pose une autre question sur la question de la famille. On prend beaucoup comme parents, moi, mes enfants sont un peu plus jeunes que les tiens, 7 et 10 ans présentement, mais on prend beaucoup de décisions aussi, on fait des choix pour nos enfants. Quel choix as-tu l'impression de faire pour eux aujourd'hui? Qu'est-ce que ça veut dire dans ta vie?
Nous, on a, entre autres, hésité longuement pour le choix de l'école de notre garçon qui a des difficultés d'apprentissage. Puis, j'ai hâte au jour où je ferai la paix avec les choix que nous avons faits. Parce que j'arrive pas encore à savoir si nous avons fait le bon choix. Puis on l'a écouté, notre choix, ça a été de l'écouter. Lui, il ne voulait pas changer d'école. Il ne voulait pas être déraciné de son école, puis on a respecté ça. Puis je ne sais toujours pas si c'était la bonne décision. Fait que oui, on fait des choix, mais là, ce qui est le fun, c'est qu'ils grandissent. Donc, on peut les impliquer de plus en plus dans la prise de décision. Puis la nature va faire en sorte qu'ils vont être de plus en plus à même de prendre leurs propres décisions, tu sais, tout doucement, puis qu'on va plus être consulté que décisionnel.
On l'espère, tout le moins. On s'en va vers là. C'est définitivement ce à quoi j'aspire pour l'avenir. Hey, une petite question spring pour toi, là. Pourquoi se marier? J'ai beaucoup d'amis au Québec qui... j'habite en Colombie-Britannique. Ici, le mariage est encore, je dirais, le gold standard à plusieurs égards des relations. Mais au Québec, c'est beaucoup moins nécessaire du point de vue légal, pourrait-on dire. Pourquoi avoir demandé ton chum en mariage?
Ah, ben c'est mon côté romantique, Brigitte. j'ai fait ça à Paris, devant Notre-Dame de Paris.
Oh, t'es cute!
À un moment donné, quand je voyageais beaucoup par affaires, je me suis retrouvé à Charles de Gaulle dans un attentat à la bombe. Puis, je me suis dit, ouais, ça va peut-être finir aujourd'hui. Puis, J'ai comme eu la réflexion de dire, est-ce que je regretterais? Puis, ma réponse était oui. Fait que le choix, c'est un thème, un fil conducteur dans l'entrevue, là. J'ai choisi de dire, je veux vivre ça. Et je vais être bien franc avec toi, Brigitte, c'est le plus beau jour de ma vie. Je sais, c'est cucu de dire ça. c'est cliché, à fond. Mais, je vais dire comment je l'ai ressenti. Je déclarais mon amour devant tout le monde à mon chum qui faisait de même à mon égard, devant nos familles et nos amis les plus proches. Tout le monde était là pour nous, pour célébrer ça. C'est dur à battre, là, comme événement, là, dans une vie. Alors, ça reste le plus beau jour de ma vie. D'ailleurs, nos enfants nous reprochent beaucoup de ne pas les avoir attendus pour se marier. Ils auraient aimé être là.
C'est cute! Ben oui, j'ai des amis, d'ailleurs, qui se marient en fin de semaine, qui ont leur fils qui est présent pour leur mariage. Puis c'est vrai, tu sais, ça ajoute une couche. Mais vous pouvez toujours faire une cérémonie pour renouveler vos vœux. Un peu plus tard, quand ça fera 15 ans ou quelque chose comme ça, puis ils auront l'occasion de participer comme témoin de votre amour.
Possible. On va réfléchir à ça.
J'aime ça. Puisque tu l'as mentionné, j'aimerais te poser la question. Est-ce qu'il y a des choix ou des non-choix que tu as fait que tu regrettes?
Non, je te dirais que je suis bien. Je suis un peu comme Édith Piaf. Je ne regrette rien.
Ah, j'aime ça.
Je suis bien avec... Vraiment, là, j'ai pas de... J'essaie d'y réfléchir, là, mais... S'il fallait qu'il m'arrive quelque chose, là, j'espère qu'il m'arrivera rien, mais je pense pas que je partirais en me disant « je regrette ». J'essaie vraiment de vivre la vie que j'ai envie de vivre. Puis je pense que je le fais assez bien.
Ah, c'est magnifique. J'aime ça. Ben parlons de ce qui vient, parlons de l'avenir, Félix. Parlons des prochaines 40 ou 50 années, puisque tu as l'air en bonne forme. Les gens ne te voient pas, là, mais tu as l'air en pleine santé. Donc, je te prédis une autre 50 années de vie en bonne santé. Comment tu envisages cette deuxième moitié de ton existence? Comment tu vois l'avenir?
OK. Bien, là, mon fils entre au secondaire. Donc, pour moi, là, à court terme, là, quand je te parle de court terme, c'est les 5, 6, 7 prochaines années, là, ça va être l'adolescence des enfants. Alors, le secondaire, fait que je m'attends à ce que ce soit un peu bumpy.
Attache ta tuque avec la broche.
Oui, exact. Donc, accompagner mes enfants là-dedans, dans l'adolescence, la transition vers l'âge adulte, ça va être important, ça, dans ma vie. Accompagner mes parents dans la vieillesse aussi. Mon père a 78, ma mère 74. Donc, puis essayer de rendre ça le fun, puis d'en profiter. Fait que ça, c'est très présent pour moi. Au point de vue professionnel, je suis hyper satisfait. Je pense que j'ai de l'eau au moulin pour m'amuser pendant un bout de temps avec tout ce qu'il y a à faire. J'ai aucune idée d'où tout ça me mènera, mais je suis bien ouvert, puis je m'amuse, puis donc je vais rouler là-dedans pendant un bout de temps. Je pense que j'adore le secteur de l'énergie. Je trouve ça vraiment intéressant. Je fais du sport, effectivement, je cours, j'essaie de rester en forme, de bien manger, de manger moins de viande, plus végétarien, de faire un peu plus de musculation aussi, parce que je pense qu'en vieillissant, c'est important. Puis j'ai jamais été trop fan de la musculation, mais je suis conscient que je dois en faire. Je veux entretenir mes relations avec mes amis, puis... soigner mon couple. Voilà. C'est mon projet.
C'est tout?
C'est tout.
As-tu une bucket list? As-tu des choses que tu voudrais absolument faire dans les prochaines 20, 30, 40 années? Si elles nous sont données?
Il y a un endroit où je vais amener mon chum. Ça, c'est sûr. Mais je ne peux pas le dire au cas où l'entrevue, il l'écoute. Alors ça, c'est officiel que j'ai un projet... que je caresse depuis un bout de temps. Ça, c'est oui. Sinon, j'ai quelques rêves. On a le rêve, entre autres, Daniel et moi, d'aller vivre à Paris pendant un an. Mais c'est un rêve qui va bientôt se transformer en projet. Avec le télétravail, qui se démocratise avec le fait qu'on vieillit, puis qu'on a des perspectives nouvelles dans les 5, 6, 7 prochaines années. Dans 10 ans, ma fille, qui est ma plus jeune, va avoir 20 ans. Et moi, j'en aurai 54. Donc, je trouve que ça ouvre... Non, mais je trouve que ça ouvre des possibilités.
Oui, oui,
54,
oui.
Je trouve ça quand même encore jeune. Puis, quand ton bébé a 20 ans, ben, tu peux te permettre certaines libertés. Donc, on a commencé à dire aux enfants que dans une dizaine d'années, on aimerait ça aller passer une année à Paris, travailler là-bas, et qu'on les invite à nous accompagner. Puis que si jamais ils ne veulent pas nous accompagner, ben, on leur paiera des billets d'avion pour qu'ils viennent nous voir. Mais qu'ils auront le choix à ce moment-là, selon ce qu'ils voudront vivre à ce moment-là. Fait que ça, c'est un très beau projet qu'on est en train de développer tout doucement.
Est-ce que tu penses parfois à l'héritage que tu souhaites laisser? Est-ce que quelqu'un m'a demandé, quelqu'un m'a dit, il faut que tu poses la question, est-ce qu'ils ont fait leur testament? Sans parler des détails de ton testament, comment, que voudrais-tu léguer à la fin de ta carrière, à la fin de ta vie?
Alors, en bon avocat, d'abord, je vais te rassurer tout de suite, mon testament est fait. Il n'est juste pas tout à fait à jour, il faudrait que je le mette à jour, mais il est fait. Moi, quand tu me poses cette question-là, l'héritage principal que je veux léguer, c'est dans le souvenir que je vais laisser. Ce qui est important pour moi, Brigitte, c'est de laisser le souvenir d'un père aimant, affectueux, d'un père aimé. Peut-être laisserai-je le souvenir d'un grand-père aussi aimant, affectueux, on verra bien, mais d'une personne... qui comptait pour ses proches. Donc, ça, c'est le premier héritage que je veux léguer. Parce que mon conjoint a perdu sa grand-mère il y a quelques années, puis on parle souvent d'elle. Elle est dans nos vies, elle a très bien connu nos enfants. On a des photos, elle était présente à notre mariage pour soutenir mon conjoint, c'était sa marraine. Puis, elle, donc, c'est son héritage. C'est l'héritage le plus précieux, d'ailleurs, qu'elle pouvait nous léguer. Alors, moi, c'est ce que je veux léguer. C'est sûr que si, en plus, ça, c'est une cerise sur le sundae, là, j'ai pu contribuer à rendre la société dans laquelle je vis meilleure, au-delà de mon rôle de père, là, mais dans un rôle comme citoyen engagé, ça, c'est important pour moi. Ça a de la valeur pour moi. Fait que, oui, ça, ce serait vraiment la cerise sur le sundae. Là. Ce serait ça, l'héritage.
On continue à travailler là-dessus pour les prochaines 20-quelques années avant la retraite.
Oui.
Imagines-tu prendre ta retraite?
Oui. Ah oui, oui. Moi, dans 20 ans, là, je vais être sur le bord de ma retraite. Puis mon chum et moi, on veut se mettre à jouer au golf à notre retraite. On manque d'originalité, mais là, on n'a pas le temps. Parce que ça prend beaucoup de temps, jouer au golf. Mais on a le goût, on se dit, à la retraite, on va apprendre à jouer au golf, on va avoir du temps, puis on va voyager sur les terrains de golf. Peut-être que ce ne sera plus à la mode, puis ça va être trop destructeur pour l'environnement. On se trouvera d'autres choses. Mais on aime faire du vélo ensemble, on aime jogger ensemble. On va vouloir explorer la planète. Oui, on en parle.
Merci d'avoir passé cette heure avec nous. Pour réagir à ce 6e épisode de La Quarantaine, visitez-moi sur Instagram, laquarantaine.balado. Pour me suggérer le nom d'une personne à interviewer, visitez le site laquarantainebalado.com. Ne soyez pas timide, vous pouvez même nominer votre propre personne. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de revenir la semaine prochaine pour une autre conversation.